Très content de le retrouver en studio, c'est Sidney Fourreau qui est avec nous. Salut Sid!
Salut, salut, ça va bien?
Ça va bien toi?
En forme, merci beaucoup.
Match Chef Montréal sur nos ondes ce soir, avant match à partir de 20h, tu seras là. Match à 20h30 contre Minnesota United. Et juste avant de te parler du match en question, est-ce qu'on a des nouvelles de Samuel Piet et de George Campbell? Je sais qu'ils étaient blessés cette semaine, ils étaient absents de l'entraînement. Max Schumann en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Il y a eu cet entraînement à huis clos aussi, là, où on a montré les 15 premières minutes et par la suite, on est allé à huis clos. Décision un peu bizarre, on y reviendra, là, mais dans le cas de Campbell et Piet, as-tu des nouvelles?
Ça a été adressé par Laurent Courtois en conférence de presse hier. Ce sont deux joueurs qui ont souffert de maux après match. Est-ce que c'est la pression liée à l'accumulation de la pré-saison? Ça a été un petit peu évoqué par Laurent Courtois, qui n'a pas voulu aussi parler du terrain synthétique sur lequel à la fois ils s'entraînent et aussi sur lequel ils ont joué contre Atlanta. Et on a voulu parler de précaution. Ce qui interroge, c'est est-ce que des joueurs qui ont manqué 3 entraînements sur 4 dans une semaine sont aptes à jouer? On comprend l'idée de vouloir justement pas prendre de risques en début de saison, on comprend l'idée de vouloir les préserver, mais on peut aussi tout simplement considérer qu'ils soient pas aptes à jouer, ouais, et les mettre de côté. Je crois qu'on a beaucoup travaillé en ce sens du côté de Laurent Courtois avec, on a vu Ousmane Jabeng genre comme jouer aussi dans des rôles clés en défense, Fernando Alvarez qui était rentré en fin de match à Atlanta, et quelques expériences du côté du milieu de terrain, à la fois Duke qui a fait quelques piges à ce poste-là. On n'a pas vu Waterman, et c'est peut-être pour ça qu'on était à huis clos, parce qu'on sait que Waterman avait joué au poste de milieu défensif, et on a aussi vu Herbert reculer, contrairement à ce qu'il a joué à Atlanta, où il était sur les postes offensifs. Il est venu aux côtés de Saliba. Donc, on aura la réponse ce soir. Peut-être même que la surprise du chef, c'est la présence de Campbell et de Piet, mais du côté de Laurent Courtois, on s'est voulu à la fois rassurant, sans pour autant nous expliquer concrètement de quoi souffrait le défenseur américain et le capitaine québécois.
Est-ce qu'on pourrait voir Jabang et également Alvarez sur le 11 partant dès ce soir?
Aux côtés de Waterman. C'est une possibilité. Maintenant, ça voudrait dire quoi? Est-ce que Lucas Pietrasso, lui, va retrouver le banc parce qu'on estime qu'il n'a pas fait une performance à la hauteur contre Atlanta? Peut-être. Il y aura aussi une autre lecture. Laurent Courtois a affirmé en conférence de presse ne regretter aucun de ses choix et surtout, en fait, d'assumer tous les choix qu'il a mis en place lors du match contre Atlanta. Donc, est-ce que Pietrasso, lui, a un peu d'avance? On pense aussi à Craig, le défenseur en provenance de Philadelphie. C'est un prospect très intéressant qui est dans les petits papiers de l'équipe nationale américaine. Donc lui aussi, c'est un joueur qui pourrait frapper à la porte de cette ligne défensive. Donc il y a des options du côté de Laurent Courtois à lui trouver un équilibre parce qu'on a l'impression qu'on a un petit peu bricolé, même si, j'admets, on n'a pas tout vu de la pré-saison. Donc il y a aussi des éléments. Quand Laurent Courtois il nous dit « Tom Pierce a manqué 10 jours de pré-saison », ben ça, c'est une information qu'on n'a pas. Et c'est aussi celle qui explique pourquoi on a voulu ménager Tom Pierce. Donc, on n'a pas tous les éléments. Néanmoins, il faut vite trouver, je dirais, la recette, pas non plus magique, mais une recette qui va tenir sur plusieurs matchs de cette pré-saison.
On va y revenir sur Tom Pierce qui, j'espère, va débuter le match comme à gauche, comme piston gauche, parce que pour moi, son rôle est extrêmement important. On l'a vu quand il est embarqué sur le terrain la dernière fois. Lui, il a une bonne patte gauche, il peut apporter des centres dans la surface de réparation, il peut être extrêmement dangereux à gauche. Alors, on va y revenir sur Tom Pierce. Juste avant, dans cette défense à 3, là, avec si jamais Alvarez et Jabang devraient jouer le match de ce soir, est-ce que tu t'attends à voir Waterman dans l'axe? Dans cette défense à 3 au centre?
Ah oui, j'espère.
Assurément.
Non, mais il faut une stabilité. Et puis, c'est Waterman, le co-capitaine, qui te l'amène en restant dans son poste de prédilection. Ouais. Lui, il n'est pas vraiment à l'aise à droite. Même s'il a connu, je dirais, ses meilleurs moments à droite de Camacho et aussi dans une équipe qui roulait vraiment bien, on pense à 2022. Depuis qu'il est arrivé au centre de la défense, hormis pour aller au milieu de terrain, on a rarement vu Waterman être déplacé. Donc Waterman sera assurément le joueur au centre de la défense. Maintenant, la question se pose sur qui va l'accompagner. Mais ça, je ne pense pas qu'on irait jusqu'à là du côté de Laurent Courtois de bouger un petit peu certains acquis, dont celui de Waterman au centre de la défense.
Caden Clark a débuté le match comme piston gauche. Évidemment, on ne connaissait pas les détails sur Tom Pierce qui avait raté 10 jours d'entraînement et tout ça. Et ça, c'est difficile parce qu'après ça, tu remets en doute certaines décisions, mais tu ignores certains détails. Alors, quand le 11 de départ est sorti la semaine dernière, on se posait beaucoup de questions. Pourquoi Clark est dans cette position-là? Avec Minnesota, ça n'a pas fonctionné à cette position-là. Est-ce que tu t'attends à le voir un petit peu plus dans l'axe ce soir, comme derrière l'attaquant, comme milieu offensif?
Non, moi, je ne m'attends plus du tout à le voir sur l'aile, pour plusieurs raisons. Tu as évoqué le fait qu'à Minnesota, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait vraiment pas. Il a eu un mal-être. Pourtant, Minnesota, c'est son club de cœur. C'est le club de sa ville. C'est le club dans lequel il aurait aimé performer. S'il s'est retrouvé à pouvoir être échangé à Montréal à si bas prix, c'est parce qu'il y avait une sous-performance largement due au fait qu'il était mis sur le côté gauche. À la rigueur, en équipe nationale, où on lui a aussi fait jouer ce poste de left wing back, il est capable d'accepter. Pourquoi ? Parce que l'équipe nationale, tu fais ce qu'on te demande quand tu joues pour le pays. Mais là, en club, sur les 34 matchs, même parfois comme 40 qui font dans une saison, oubliez ça, l'idée comme de Kaden Clark sur le côté. Il va vous dire en conférence de presse, je ferai ce que le coach va me dire, je ferai les choses pour le bien de l'équipe, très bien, ok. Mais là où il s'éclate le plus, c'est en poste de numéro 10. Et on l'a vu en fin de saison l'an dernier, dans son arrivée, c'est là qu'il apporte le plus au CF Montréal. Et autre aspect, c'est qu'on a doublé les postes. Et Tom Pierce ou Dante Chili, quand ils regardent un Kaden Clark leur prendre la place sur le côté gauche, ils se grattent la tête en disant « Attends, moi ça c'est mon poste, ça, c'est ce pourquoi je suis présent ». Qu'est-ce qui justifie que je sois sur le banc par rapport à une personne qui joue hors position ? Donc, pour ces raisons-là, on ne peut pas non plus nier l'information qui a été mise en avant par Tony Marinaro sur des négociations de contrat qui pourraient peut-être influencer l'état des relations.
Ouais, il a parlé que ça pourrait être le nouveau dossier Mathieu Choignard de cette année 2020.
Voilà, donc comme peut-être une façon un peu de dire, garçon, on te remet à ta place, tu te calmes, tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Donc voilà, on peut-être que ça peut jouer. Maintenant, j'espère non, moi je vous le dis sincèrement, que ces considérations, j'espère qu'elles ne sont pas du tout dans la tête de Laurent Courtois. Si tu veux mon avis, je ne pense pas qu'elles le sont. On a voulu faire un pari parce que la défense d'Atlanta, elle était plutôt bancale avec de nombreux absents. Peut-être qu'on a voulu voir un petit peu comme Kaden Clark, peut-être on dit, écoute, à Montréal, nous, on va réussir à te faire jouer left wing back. Bref, expérience qui a à mettre de côté. Donc moi, je m'attends à revoir Tom Pierce. Tu l'as dit. Tom Pierce, tu sais, tu sais exactement ce que tu vas avoir de Tom Pierce. C'est le fun, ça. Tu sais, le ballon, il est là. Il va chercher à faire un centre, on appelle ça un centre au cordeau, avec vraiment tous les faits sur la courbe de la balle. On va chercher Owosu, qui est une belle cible. Tu sais aussi que s'il a une option de frappe, il n'a pas peur. Et il a un peu fait trembler Guzan avec une excellente frappe aux abords de la surface de réparation. Tom Pierce, tu sais ce qu'il va te donner. Et ça, moi, je trouve que dans une optique tactique, et pour ses propres coéquipiers, c'est le fun. C'est le fun parce que c'est un joueur qui va de l'avant et qui connaît ses qualités. Lui, il sait, moi, je suis fort à faire des centres. Checkez-moi, je vais faire des centres. Donc, je veux un Tom Pierce, moi, titulaire. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, Tom Pierce, et on l'a vu déjà en fin de saison l'an passé, d'une part, défensivement, c'est un peu compliqué. Il y a des moments où il s'égare un petit peu. Et physiquement, c'est au-delà de l'aspect, je pense, purement défensif, j'ai l'impression que physiquement, il n'est pas en mesure de jouer un peu plus de 60 minutes de jeu. Donc, à voir si maintenant, il a une pré-saison complète dans les jambes, s'il se sent mieux physiquement et on peut compter sur lui. Mais je me poser cette question sur Tom Pierce, mais en même temps, tu fais la balance des plus et des moins, tu sais, quand
il y a beaucoup plus de plus que de moins.
Au secondaire, là, plus, moins.
Quand tu veux prendre une décision, tu regardes, il y a plus de plus, de moins.
Moi, je crois qu'il y a plus de plus. Donc voilà, pour Tom Pierce, on espère le voir titulaire.
Ouais, puis tu en parlais, puis dans le cas de Tom Pierce, ce que j'aime aussi, c'est quand il y a des coups francs devant la surface de réparation du côté droit, il y a une bonne patte gauche. Il va prendre ces coups francs-là chez le CF Montréal. On va lui faire confiance dans des situations comme celle-là. Parce
et fixe, tu sais ce que tu aimes le plus frappe. Dans les coups francs et les coups pieds arrêtés, c'est que tu as un petit frisson. Parce que tu sais qu'il peut se passer quelque chose.
Parce qu'il peut marquer.
Exactement. Et pendant des années, au CF Montréal, il y avait des coups francs. On se dit, bon, l'action va se découler. Mais là, tu sais, cette tension quand il pose le ballon, il recule, et toi, tu te dis... Et je pense que c'est précieux d'avoir ça dans une équipe. Donc, on n'oublie pas que c'est lui qui tire le corner qui amène le deuxième but de Owosu, déviation de Campbell au second poteau pour Owosu. Donc voilà, il a des qualités vraiment précieuses, et je pense que c'est pour ça qu'il devrait être sur le terrain, même par rapport à ce qu'il enlève défensivement.
Question pour toi, parce qu'on parlait de Kaden Clark, ça m'amène une réflexion. Est-ce que Kaden Clark a bien performé en fin de saison dernière qu'on a fait son acquisition parce qu'il jouait avec Joseph Martinez? Est-ce qu'il a fait mieux paraître Joseph Martinez ou Joseph Martinez a fait mieux paraître Kaden Clark? Et là, je m'explique, Kaden Clark est arrivé, il a connu énormément de succès dans une position qui était différente de celle avec Minnesota United. Et là, on l'a vu au dernier match, on l'a mis dans une position qui ne l'avantageait pas, Kaden Clark. Mais l'an dernier, est-ce que c'est Joseph Martinez qui a rendu Caden Clark meilleur ou c'est Caden Clark qui a rendu Joseph Martinez meilleur?
Assurément, Joseph Martinez a rendu les autres meilleurs. Ouais. Il a sur son CV un nombre de buts et des accomplissements qui fait en sorte que la réponse va pencher pour Joseph Martinez. Maintenant, c'est à Caden Clark d'écrire son histoire, voilà, et de démontrer que lui aussi, il a contribué à 100% à ce qu'on a connu en fin de saison, que lui aussi, c'est pas pour rien qu'il est sûrement présélectionné pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale américaine, que lui aussi, c'est un joueur qui aspire à jouer la prochaine Coupe du Monde et qui veut, pourquoi pas, se retrouver que ce soit dans le match des étoiles de MLS et pour le trophée du joueur offensif de l'année qui devrait lui tendre les bras s'il joue à son niveau. Donc, nécessairement, la fin de saison l'an dernier est à 100% raison. On va l'estampiller Joseph Martinez. Ouais, forcément. Mais en même temps, je pense que Caden Clark, lui, c'est censé être sa saison, à lui de la prendre, à lui d'être celui qu'on dit qui fait mieux jouer les autres. Et il devra le prouver, parce qu'effectivement, tant qu'il ne le fait pas, on pourra toujours se spéculer comme on le fait.
Seulement 21 ans, j'aime rappeler Caden Clark. C'est encore un très, très jeune joueur. Et il y en a un autre qui est arrivé, qui était là cette semaine à Montréal, Sinchuk, qui est le plus gros transfert dans l'histoire du CF Montréal. La nouvelle du plus gros transfert qui est comme passé sous silence, on n'en a pas parlé, pourtant c'était le plus gros transfert de l'histoire du club. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Est-ce que tu l'as vu en entraînement cette semaine?
Je l'ai vu mardi. C'était un joueur qui assez grand, je trouvais... Pour un truc qui m'a un peu frappé, tu sais, on parlait de ce jeune adolescent, là, 18 ans, on vient d'Ukraine et autres, peut-être un petit peu, j'avais un peu dans l'imaginaire qui était peut-être un petit peu frêle, etc., fragile et genre comme timide. C'est pas du tout le joueur que j'ai vu, un joueur qui a une très belle qualité technique. Tactiquement, il était un peu perdu, c'est un peu normal aussi parce que c'est la première fois qu'il joue avec ses coéquipiers. Je trouvais qu'il manquait un peu de rythme aussi. On nous a dit qu'il s'était entraîné à Bologne, mais sauf qu'à Bologne, il s'entraînait tout seul. C'est pas pareil que s'entraîner avec le groupe. Donc lui, il est un petit peu en retard à ce chapitre-là. Maintenant, il est en retard, oui, mais bon, il est beaucoup plus en avance que Vrioni, que Neil ou d'autres qui sont sur les lignes de côté depuis un moment.
Qu'on a hâte de voir aussi.
Et qu'on a aussi hâte de voir. Et ce que j'ai trouvé intéressant, bon, déjà, une chose, c'est que la plupart des joueurs qui ont parlé en conférence de presse, je pense à Saliba, je pense à Pierce, je pense à Clark, ont tous souligné vraiment des très belles qualités, ces joueurs. Ils sont excités, ils ont hâte de jouer avec lui. Oui, donc il y a quand même une projection, il y a quand même certaines attentes envers lui. Tu le rappelles, c'est le transfert le plus cher du CF Montréal.
Ouais.
Et la deuxième chose, c'est que finalement, il parle très bien anglais. Très bien, peut-être genre, comme qu'on pourra me corriger dessus, mais il s'exprime super bien en anglais et... Ils sont agréablement surpris, les joueurs, à quel point l'intégration peut se faire rapidement de Sinchuk. On n'est pas sur on a eu des joueurs dans le passé qui ne parlaient ni anglais ni français, souvent des hispanophones, ouais. Et c'est un peu plus compliqué, donc ils se retrouvent toujours à être un peu en mode clic avec les autres hispanophones du club. Et là, pour Sinchuk, il a au moins, avec l'anglais, cette liberté de parler à qui il a envie de parler, et je pense que ça va l'aider dans son intégration. Le club a pas fait beaucoup effectivement de bruit au sujet de ce transfert là. Je crois qu'on veut se garder une petite gêne parce que c'est le plus gros transfert, en tout cas l'un des plus gros.
Il y a seulement 18 ans aussi.
Et qu'il a seulement 18 ans et qu'il y a un niveau d'intégration. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment envie de mettre une cible dans son dos et on peut comprendre cela. Je trouve ça aussi quand même excitant. C'est un club qui monte de l'ambition. Atlanta, j'ai 22 millions sur la TELAT, on dit ceci sur Almiron, mais c'est excitant, comme ça on t'envoie un message à ta communauté, à l'écosystème, t'envoies un message à tout le monde, comme hey, on est là pour faire des choses intéressantes. Donc, du côté de Sinchuk, pour l'instant, on va l'oublier un petit peu, mais il est pas mal plus près qu'on a l'air.
Ouais, est-ce qu'on pourrait le voir bientôt en action ou
J'ai l'impression qu'on le verra en action avant Montréal. C'est-à-dire que là...
il reste 6 matchs à l'étranger.
Ouais, merci, et je pense vraiment qu'on le verra en action avant le retour à Montréal.
Parfait. Mais j'ai hâte de le voir en action parce qu'on l'a mentionné, c'est le transfert quand même le plus gros de l'histoire du CF Montréal. C'est un jeune homme de 18 ans. On veut le développer ici à Montréal, peut-être dans une option d'éventuellement le revendre à gros prix dans un autre club, de le transférer ailleurs, mais ça va être intéressant de suivre son parcours avec le CF Montréal. Je veux qu'on se concentre maintenant en terminant sur le match de ce soir. Minnesota United, la semaine dernière, défaite de 1-0 contre LAFC. Minnesota, qui a connu une bonne saison l'an dernier, je pense 6e position dans l'Ouest. À quoi on peut s'attendre ce soir du CF Montréal contre une équipe comme Minnesota United?
Dès les premières minutes du match contre LAFC, on a vu une équipe qui était regroupée, bloc bas, genre comme tu voyais vraiment la ligne de 5 défenseurs, les 3 milieux et les 2 attaquants qui sont assez, assez mobiles. Et tu voyais que c'est une équipe qui était à l'aise à jouer dans ce, dans, dans ce, qu'on a, ce qu'on appelle communément un bloc bas. Et après, une fois qu'on a le ballon, ben Sinclair, qui est d'ailleurs le gardien de l'équipe canadienne, lui, il n'a aucun problème à aller allonger, aller chercher Olawusu, aller chercher Yeboah, qui sont des joueurs qui sont extrêmement physiques et qui sont capables d'aller à la fois soit gagner le duel, soit de mettre un second ballon pour qu'après les milieux comme Trapp aller récupérer ce ballon et puissent attaquer en transition rapide. Donc c'est une équipe qui va poser un défi physique intéressant à Montréal et un autre défi tactique parce que évidemment, comme c'est une équipe qui est en bloc bas, il y a de grandes chances que Montréal ait un peu plus la possession et va devoir trouver des solutions contre une équipe qui est assez compacte. Et je ne sais pas encore si Montréal a la maturité, à la fois technique, parce qu'on a vu pas mal de déchets lors du match contre Atlanta, et la maturité tactique de trouver ces solutions-là. Là où Montréal a quand même fait mal à Atlanta, c'est parce qu'Atlanta, c'est une équipe qui attaque un petit peu genre à tout va, et ça laisse beaucoup d'espace. Et là, Montréal était assez à l'aise. Il y avait des espaces un peu partout, Mercedes-Benz Stadium, puis on est capable d'attaquer, transition rapide, au bossou, clac, pam, pam, pam. Là, ce sera un match un peu différent. Maintenant, ça, l'échantillon, c'est juste le match à LAFC. Minnesota va sûrement à domicile vouloir être un peu plus à l'offensive, donc peut-être qu'ils ne seront pas autant en bloc bas comme on l'a vu, mais c'est une équipe qui n'a pas peur de ces duels, du jeu aérien, transition rapide, et ce sera un match qui va être assez physique. Ce n'est pas nécessairement les configurations que Montréal aime, je dirais, là, dans une équipe qui aime ça quand c'est un peu plus posé.
Sans Samuel Piet en plus quand même, qui est quand même
Samuel, peut-être sans, peut-être sans Samuel Piet, peut-être sans Campbell, donc la tâche sera intéressante, mais en même temps, elle a perdu le premier match, ce n'est pas non plus genre une équipe incroyable. Ils ont fait une belle fin de saison l'an dernier aussi, même s'ils ont éclaté en plein vol en demi-finale de Coupe MLS. Bref, je trouve que c'est une équipe qui est prenable. Qui est peut-être pas une victoire, mais au moins aller chercher un point à l'Allianz Arena, c'est possible pour le CF Montréal.
Un gros merci, Cyd. On t'écoute ce soir sur nos ondes avant match à 20h et la diffusion du match à 20h30. Toujours un plaisir de faire de la radio.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Cinéphoro qui est avec nous pour mettre la table pour ce match ce soir, CF Montréal-Minnesota. Juste avant d'aller à la pause, je vous rappelle, il y a eu une transaction en fait dans la Ligue nationale de hockey. Transaction entre l'Avalanche du Colorado et les Rangers de New York. L'Avalanche est allé chercher les services de Ryan Lindgren, le défenseur. Les Rangers retiennent 50% du salaire avec Jimmy Vesey. Et en retour, les Rangers qui obtiennent notamment Juuso Pärssinen, Calvin DeHaan, un choix de deuxième ronde et un choix de quatrième ronde en 2025. C'est déjà parti, transaction Ligue nationale. Et Gustav Nyquist, l'attaquant des Prédateurs de Nashville, a été laissé de côté. On parle d'un LT scratch. Alors, il est en santé, mais on le laisse de côté dans l'éventualité de vouloir l'échanger chez les Prédateurs de Nashville. Alors, c'est un dossier à suivre pour la Ligue nationale de hockey. On prend vos appels au retour. Match Canadien-Sabre ce soir. Vous voulez nous parler également du CF Montréal, qui est tout seul en action contre Minnesota United, 514-790-0919.